Eh bien, nous avons tenu ce colloque sur Zola et l'image à la Bibliothèque nationale, et c'était bien naturel, puisque dans ce lieu coexiste, tout le monde le sait ici, le texte zolien sous toutes ses formes et en tous ses états et avant-textes successifs, comme disent les généticiens, ainsi que bon nombre des images visuelles qu'il a inspirées ou créées. Mais Zola lui-même, dans son effigie la plus illustre et la plus universellement reproduite et répandue, celle que nous avons vue hier matin, où est-il ? Il est au musée d'Orsay, de l'autre côté de la Seine, sur l'autre rive du fleuve dans lequel Claude Lantier, peintre imaginaire et héros de roman, abîmait ses regards et ses rêves. Le texte ici, donc, et le musée là-bas. Alors mon propos est de tenter de montrer que l'un ne va pas sans l'autre, dans le cas précis de Zola, et de réunir le musée et le texte, parce que l'œuvre de Zola ne les a jamais séparés. Encore faudrait-il peut-être substituer le mot « atelier » peut-être au mot de « musée », parce que dans le texte de Zola, ce qui fait non pas tellement décor, mais plutôt matière, comme je vais essayer de le montrer, en une liaison organique entre le dire et le voir, c'est l'œuvre d'art au naturel, l'œuvre d'art en situation, l'œuvre d'art au vif. Alors je voudrais justement, pour commencer, revenir au portrait de Zola par Manet, ceci dans la logique et la suite de la très belle communication que nous avons entendue hier matin de Nicole Savy. Nicole Savy a prononcé le mot « emblème ». C'est en effet une toile qui est emblématique de l'œuvre de Zola, certainement, mais qui doit être emblématique aussi de nos réflexions de ces jours-ci sur Zola et l'image. Parce que, en plus de la personne même de l'écrivain, c'est son œuvre écrite qui s'y trouve mise en image. Et parce que, réciproquement, l'image y forme allégorie de l'œuvre littéraire. Toile saturée de signes, disait hier Nicole Savy. Dans un très bel article de 1975, un collègue, américain dont nous regrettons l'absence ici, Théodore Reff, qui est le grand spécialiste de la critique et de l'histoire de l'art impressionniste, Théodore Reff a montré que ce portrait est une des premières toiles dans l'histoire de la peinture française où le sujet soit à ce point, je dirais, figuré au sens rhétorique du terme par son décor. Les motifs picturaux secondaires, en effet, vous l'avez vu, je ne la remontre pas cette toile, hein, tout le monde a pu la contempler hier matin pendant de longues minutes, vous l'avez tous en mémoire, je pense. Et vous savez que les motifs picturaux du fond de tableau peuvent être considérés comme autant de figures métonymiques qui redisent à différents points de vue ce qu'est la personne portraiturée dans ses goûts, dans son métier et dans ses œuvres. Et même ils redisent aussi, selon un autre code, ce qu'est le peintre lui-même, allant, comme Nicole Savy nous l'a montré, allant jusqu'à mettre en abîme sa signature, manière d'associer encore plus étroitement le peintre et son modèle, l'homme de l'image et l'homme de la lettre. Théodore Reff a identifié, je crois, le premier ou un des premiers, avec une extrême précision, tous ces motifs picturaux de fond de toile. La brochure consacrée par Zola à Édouard Manet, ça c'était vraiment le plus facile, avec le nom du peintre qui fait signature, un prénom d'ailleurs du peintre qui reste occulté par la plume d'oie qui sort de l'encrier de Zola, ce qui est sans doute d'ailleurs de la part du peintre une manière d'affirmer encore plus hautement et plus glorieusement la valeur de son nom. Le paravent japonais sur la gauche du tableau, L'histoire des peintres de Charles Blanc, volume ouvert sur les genoux de l'écrivain, une reproduction de l'Olympia de Manet et une autre, à demi cachée, même plus qu'à demi cachée, des buveurs de Velázquez. Tout ça nous a été redit et nous a été dit d'abord hier matin. Une estampe japonaise de Kuniaki représentant un lutteur et même en bas du cadre qui entoure les reproductions, une plume de paon peinte sur le bois. Théodore Reff n'a mentionné les volumes qui sont présents sur la table que pour souligner leur disposition en éventail. Selon lui, l'ensemble de ces éléments, en plus du jeu de rapports formels qu'ils introduisent, constitue un art poétique, ou plutôt un art pictural, et une histoire indirecte du peintre plus que du romancier. Pour ma part, ils me paraissent valoir au moins pour les deux parties et sur les deux portées, et en tout cas parler fortement pour cela. En effet, c'est l'activité essentielle, la raison d'être de celui-ci. Rappelez-vous le titre sur lequel nous discutions hier matin, Zola écrivain. C'est la raison d'être de Zola qui illumine au cœur du tableau, entre la main et le livre, la tache de lumière de l'encrier. La brochure sur Manet symbolise, au-delà de l'amitié des deux hommes, l'intérêt passionné de Zola pour la peinture et pour la critique d'art, et l'unité organique d'un même art en deux personnes ou en deux langages, peindre et écrire. Le livre que tient Zola de sa main gauche est un livre d'images où l'icône et le texte sont solidaires. Et si l'hypothèse de Théodore Reff est la bonne, si vraiment il s'agit de l'histoire des peintres, de Charles Blanc, cette histoire des peintres redouble évidemment l'effet de sens de la brochure sur Manet, avec cette différence tout de même que Zola est censé lire celle-là alors qu'il a écrit celle-ci. Le triangle très présent, très prégnant que forment les livres sur la toile se referme. La brochure sur Manet, l'histoire des Girondins, et enfin le troisième pôle, ce triangle se referme avec l'éventail des volumes disposés à la verticale sur la table. Alors évidemment, les titres ne sont pas lisibles, ils ne sont même pas visibles, mais je crois qu'on peut reconnaître les silhouettes et les décorations de couverture qui permettent de penser que ce sont là tout simplement les premiers livres publiés par Zola. Et en 1867, Zola n'est plus un débutant. Si on compte les livres qui apparaissent, on retrouve à peu près exactement, me semble-t-il, les Contes à Ninon, La Confession de Claude, Le Vœu d'une Morte, Mon Salon, Méhaine, le premier volume des Mystères de Marseille et très probablement celui qui apparaît au premier plan dans ce détail de la toile, Thérèse Raquin. Ils sont donc tous là exposés, affirmant au cœur de la peinture la gloire du verbe. Et moi, j'ai été tout à fait passionné tout à l'heure et intéressé de voir réapparaître dans l'exposé de M. Kahanoff la toile, la photo dont nous a reparlé ensuite Bertrand Evenot, cette photo au livre et à la photographie qui referme l'arc de cercle entre le portrait de Zola par Manet et la fin de la carrière de Zola. Donc, tous ces livres sont bien là. Enfin, un peu en arrière, ce reflet métonymique de Zola, que sont ses livres, se complète avec un entassement d'autres petits volumes qu'on aperçoit un peu plus dans l'ombre, petits volumes reliés qui pourraient bien, me semble-t-il, dénoter les curiosités scientifiques et philosophiques d'un jeune écrivain encore tout pénétré, comme on le sait, de ses lectures positivistes. Enfin, il y a les personnages des trois images qui occupent le coin droit supérieur du tableau, vous les avez dans les yeux, je pense. Eh bien, on sait que Manet a subtilement modifié la direction originelle de leur regard. Nicole Savy nous l'a rappelé hier à propos d'Olympia. En effet, Olympia, d'un côté, le personnage central de la partie visible du groupe des buveurs, et le lutteur ont tous les trois les yeux fixés sur Zola. C'est particulièrement sensible pour Olympia, qui, de la toile célèbre du salon de 1865 au portrait de Zola, a carrément détourné les yeux vers la droite, semblant ainsi échapper au tableau qui l'immobilisait, pour entrer en trompe-l'œil dans l'intimité de l'écrivain qui, le premier, avait célébré sa beauté. Toujours est-il que c'est une facétie, d'une certaine manière. On serait moins étonné, peut-être, si cette facétie était signée Marcel Duchamp. Mais enfin, c'est un détournement de regard qui souligne avec audace et avec une pointe d'humour, sans doute, de la part du peintre, et même avec une curieuse préscience de ce que sera l'œuvre à venir, qui souligne la parenté unissant les thèmes et les symboles de ces images, contrepoint du portrait, avec ceux-là qui nourrissent et qui nourriront les romans et la vie même de Zola. Olympia, la courtisane et l'éros, les buveurs, paysans, les hommes de la terre et de l'ivresse, le lutteur, enfin, massif et puissant, prêt pour tous les combats, il me semble qu'on ne saurait mieux signifier par cette toile la consubstantialité du scriptural et du pictural. Manet, témoin de Zola, transforme l'écrivain et ses livres dans cette toile en un objet pictural, mais à l'inverse, il transforme l'icône, l'objet visuel, en signifiant du texte. Non seulement du texte présent, ce qui est tout à fait extraordinaire, mais aussi des textes à venir. Alors, il nous resterait, me semble-t-il, à suivre l'intuition du peintre, qui est cette intuition unifiante, cette sorte d'intuition affirmant cette organique consubstantialité entre le livre et la toile. C'est un vaste sujet et qui certainement pourrait alimenter plusieurs thèses, et je ne m'en tiendrai qu'à quelques réflexions prospectives plutôt qu'au résultat d'une enquête approfondie. Le premier travail consisterait sans doute à faire l'inventaire muséographique du roman zolien. Il y a là, vu à un siècle de distance, un extraordinaire bric-à-brac. C'est un peu le magasin d'antiquité de la peau de chagrin. Ou bien tout à la fois le musée d'Orsay et le musée des arts et traditions populaires. On y trouve des locomotives à vapeur et des alambics, des vitrines de charcutiers et des outils de couvreurs, des vêtements ecclésiastiques, des bijoux, des décors de théâtre, des lampes de mineurs, un trésor, ou peut-être, nous dirait Patrick Brady, un chaos, fait de centaines, peut-être de milliers d'objets de toute nature, qui, de fait, aujourd'hui, seraient autant de pièces de collection, sinon de musées. Alors là, il y a une première classe d'énoncés d'objets dans le roman de Zola, qui sont proposés au regard intérieur du lecteur. Elle mériterait à soi seule une étude sémiotique, sémiologique, narratologique et esthétique, et peut-être en tout cas déjà tout simplement un double index alphabétique et raisonné, un instrument de travail qui servirait non seulement pour mieux connaître l'expérience, le savoir, l'imagination, les techniques du romancier, mais aussi pour explorer d'un point de vue ethnographique et historique les modes de vie, les codes, les modes tout simplement, tout court, de la société française du XIXe siècle. Cependant, de même que Manet, dans son portrait de Zola, représente d'une part des objets, l'encrier, la plume, les livres, et d'autre part des représentations au second degré, c'est-à-dire des icônes d'êtres et d'objets, les buveurs et leurs verres sur la toile, sur la reproduction de Velázquez, Olympia et son sofa, etc. Et bien, de même, le romancier fait imaginer, avec le seul instrument du langage verbal, d'un côté, un environnement d'objets, et de l'autre, un dispositif ou un décor d'icône, où la mimésis littéraire, en somme, travaille au second degré et devient une métamimésis. Exemple, le portrait de Camille dans la chambre où Laurent va rejoindre Thérèse Raquin. Petit Pyramétis B dans Madeleine Ferrat, enfin, quantité d'autres exemples de cette sorte. Dans des cas tels qu'un double écran alors s'interpose entre le lecteur contemplateur et la réalité extratextuelle. Mais la distinction se complique tout de suite du fait que certains objets assurent en même temps une fonction pratique, instrumentale, et une fonction iconique, esthétique. C'est le cas des catalogues du Bonheur des Dames, ou bien du Vitrail du Rêve, ou bien des dessins d'architecte de la Curée. Sans parler du musée architectural dans la Curée, par exemple, ou dans Au Bonheur des Dames, ni du musée botanique, pourrait-on dire, dans La Faute de l'abbé Mouret, où la fonction pratique et la fonction esthétique, avec leurs codes respectifs, se confondent. Alors, tenons-nous-en, je voudrais m'en tenir simplement, pour simplifier l'analyse, à deux oppositions catégorielles, successives. La première, entre ce que j'appellerais objet d'usage et objet d'art, tout en ayant parfaitement conscience de la fragilité de ces distinctions. Et la seconde, parmi les objets d'art, entre objet non iconique et icône. J'emploie depuis tout à l'heure le mot icône, et d'autres l'ont fait avant moi. Je crois que c'est un mot qui a son utilité, parce que le mot image, en français, malheureusement, est tout à fait ambigu. Nous pouvons alors choisir de nous intéresser par priorité à cette toute dernière catégorie, celle des objets iconographiques. Ou plus exactement, puisqu'il s'agit de toute manière d'un texte, et si j'ose forger un terme barbare, les objets textes iconographiques. Chambel-Manoël a forgé le mot texte-analyse pour ses études de psychanalyse littéraire. On pourrait forger le terme de texte-iconographie pour étudier l'iconographie dans le texte, c'est-à-dire la mention et la représentation textuelle de photographies, de gravures, de peintures, de dessins, d'enluminures, de papier peint de Sidonie dans la Curée, de tapisseries, d'affiches, de broderies, les broderies du rêve, de vitraux, de tentures, de sculptures, bien sûr, pour ne citer que des iconographismes zoliens. J'hésite entre iconographisme et iconogramme. Vous choisirez, on peut inventer encore autre chose. Voici par exemple la moisson tout à fait abondante qu'une lecture rapide extrait de la Curée. Alors pardonnez-moi, ça prend un côté course au trésor et énumération de marché aux puces. Les panneaux gros bleus des voitures de maître, les sculptures de l'hôtel Saccard, extérieur et intérieur, les décorations de la vaisselle fine, les tapis et les meubles des salons, les portraits des vieux parlementaires dans l'appartement de Béraud du Châtel, l'album de portraits des dames qui composent l'entourage de René et dont Alain Buzyn nous a parlé ce matin, les portraits d'actrices, les photos de leurs amants, la tête de diable ricanant sur les carreaux jaunes et verts d'un kiosque du boulevard des Italiens, les rosaces du tapis dans le cabinet particulier du Café Riche, le décor de l'appartement particulier de René, les roses, les lilas blancs et les boutons d'or de la tenture, les peaux d'ours noirs avec leur tête aux yeux de verre regardant fixement le ciel vide, la pendule avec la ronde d'amour joufflu, le plafond peint par Chaplin, encore un amour rieur, le sphinx de marbre aux cuisses luisantes dans la serre, les blancheurs des statues, les coiffures antiques dessinées au musée Campana par Maxime, les tapisseries de l'hôtel Béraud, le papier peint de Madame Sidonie, les portraits de l'empereur et de l'impératrice envoyés aux électeurs influents, le décor des tableaux vivants, les déguisements du bal travesti, le costume de tahitienne de René, les décorations des petites maisons du XVIIIe siècle, démolies dans le quartier Charonne, avec dans l'une d'elles une petite tête d'amour peinte. Et pour finir, l'ancienne poupée de René, dont tout le sang a coulé par un trou. Image ultime et pitoyable de ce qu'est devenue la belle Madame Saccard. Je laisse de côté, bien entendu, d'autres arrangements artistiques et décoratifs qui ne sont pas des représentations sur support, telles que la disposition des jardins et des bosquets du bois de Boulogne, celle de la serre, les tableaux vivants du bal ou les figures du cotillon. On voit assez, je pense, par cette énumération, la multiplicité des objets que j'appelais tout à l'heure iconographiques ou textes iconographiques, c'est-à-dire constitués comme support ou comme matière d'une représentation picturale, originale ou dérivée, sculpturale ou photographique. Bien sûr, le thème, les personnages, les lieux de la curée appelaient tout naturellement une décoration aussi pléthorique et aussi rococo. Mais dans un roman comme L'Assommoir, plus dépouillé à cet égard, Zola franchit un pas de plus. On se rappelle La course éperdue, la burlesque et touchante cavalcade de la noce de Gervaise à travers les salles du Louvre, où défilent sous les yeux émerveillés et respectueux des convives les sculptures assyriennes, le radeau de la Méduse, les noces de Cana, la Joconde, la Vierge du Murillo, les tableaux italiens et flamands, les Hollandais, la kermesse de Rubens, et même les tableaux des copistes, les plans de bateaux et les petits dieux de l'Orient. Ici, c'est véritablement le musée comme institution qui envahit le texte, qui pénètre le texte du roman dans un chapitre lui-même conçu sur le modèle d'une kermesse flamande ou d'une scène d'auberge à la Tenier ou à la Van Ostade. Monsieur Madinier, vous vous en souvenez, entraîne les couples de la noce dans une traversée de ce musée. C'est une traversée plus pacifique que celle des insurgés qui ravagent le palais des Tuileries au début de la troisième partie de l'éducation sentimentale, mais d'une certaine façon, les deux textes se font un clin d'œil. Dans les deux cas, l'entrée du peuple dans les palais officiels fait sauter tous les verrous des conventions, des liturgies politiques et académiques, des impositions dogmatiques. Monsieur Madinier, qui est le mentor du groupe et qui, lui, connaît un peu d'histoire, ainsi que les programmes de l'ambigu, parle à demi-voix, comme dans une église. Mais tout de même, la Joconde se commettant avec mes bottes, le musée du Louvre bousculé par la rue de la Goutte d'Or, tout ça ne va pas sans dégâts pour l'institution muséographique elle-même, telle que la société victorienne l'a établie. L'ahurissement, le gros mal de tête, dit le texte, et l'épuisement final des visiteurs dans le labyrinthe des salles et l'entassement des peintures sont le parfait réactif du divorce socialement institué entre l'art et le peuple. Et pourtant, semble signifier Zola, si les verrous sautaient une fois pour toutes, l'antinomie, l'ignorance réciproque se résoudrait tout naturellement en une entente et une harmonie où l'on pourrait trouver la vérité profonde des plus illustres de ses œuvres. Car ces gens du peuple, ces noceurs miséreux, ces misérables, eh bien, comme par instinct, ils s'arrêtent devant des toiles qui sont leurs harmoniques ou leurs images mêmes. Et que Zola a retenu à la fois parce qu'elles font écho en leur langage, à l'histoire et au sens de ses personnages, et parce qu'elles forment ensemble son musée à lui, le musée de ses thèmes préférentiels et de ses idéaux artistiques. Le radeau de la Méduse et ses affamés, les noces de Cana et la splendeur des corps conviviaux, la Joconde et le mystère de son sourire de femme, la Vierge du Murillo et ce qu'elle annonce de la maternité, la vie grasse et belle de lumière des Hollandais, dit le texte, la kermesse de Rubens. Alors voilà que toutes ces pièces maîtresses du Louvre, ces références de la culture universelle, commentent et annoncent le destin d'une petite blanchisseuse. En un ordre inversé d'ailleurs. La fin et la mort pour commencer, la fête pour finir. Il me semble qu'un curieux échange, une curieuse osmose se joue là momentanément. Et ce serait peut-être le lieu, si l'on ne craignait d'être pédant, d'utiliser la tripartition proposée par le linguiste Peirce, qui classe les signes en icônes, précisément, en indices et en symboles. Sous le regard de Gervaise et de ses amis, et plus encore dans le discours implicite du romancier, le radeau de la Méduse et la kermesse de Rubens, icônes d'un naufrage ou d'une beuverie, deviennent les indices d'un appareil artistique d'État, avec ses pesanteurs, sa présence lourde, obsédante, mais aussi contradictoirement ou dialectiquement, et en dépit de leurs anecdotes sources, les symboles et l'expression mythique de l'allégresse et de la misère populaire. L'ironie, au niveau indiciel, se change en consécration au niveau symbolique. Et on voit que si l'institution picturale pâtit de cette scène d'anthologie, et les anthologies, n'est-ce pas Bertrand, sont les musées de la littérature, les toiles, elles, en reçoivent de nouvelles couleurs et de nouvelles valeurs. Leur mise en situation romanesque les interprète mieux qu'un long discours de critique d'art. Ainsi se crée, du roman au musée, du texte à la toile, non pas une intertextualité, mais le mot a déjà été prononcé, je crois, par Jean-Pierre Leducadine avant-hier, une interesthéticité qui ajoute aux citations et aux réminences textuelles des citations des réminiscences et des mises en abîme picturales. Les peintures imaginaires de peintres réels, comme les amours de Chaplin dans La Curée, et les toiles de peintres imaginaires, comme L'Enfant mort de Claude Lantier, ne contredisent pas cette relation interesthétique parce qu'elles sont imaginées selon des modèles dominants. J'aimerais donc m'interroger, un peu plus longuement encore que brièvement, sur les fonctions et les effets de cette muséographie romanesque, de ce qu'on pourrait appeler une muséographie romanesque. On songe tout de suite, bien entendu, d'abord à l'effet de réel, peut-être plus précisément à l'effet de milieu. Les photographies, les toiles, les broderies, les sculptures de la Curée disent la richesse et luxe de l'hôtel Saccard, comme les livres et les estampes sur le tableau de Manet disaient l'étude, le goût de l'art et le métier d'écrivain. Leur accumulation, dont j'ai donné une idée en les énumérant, applique la théorie naturaliste du milieu. Encore faut-il serrer les choses d'un peu plus près. Dans l'Assommoir, les peintures du Louvre oppose visiblement à la culture populaire les signes de la culture bourgeoise, mais ces peintures du Louvre, devenues objets de musée, sont sorties du circuit des décors mondains, du circuit de la collection, de la marchandise, de l'argent et des signes de richesse. Alors que les icônes de la Curée, au contraire, non seulement témoignent pour une fortune privée et pour les goûts de ses détenteurs, mais en plus, elles participent à l'expansion de cette fortune. Elles font partie du jeu spéculateur, médiatique, on dirait maintenant, de Saccard. Elles affichent la richesse pour donner confiance et par là même accroître davantage la richesse. Elles jouent leur rôle dans l'économie de la spéculation. Elles confirment de cette façon la véracité du personnage de spéculateur d'Aristide Saccard et de sa carrière. Alors ça, c'est l'explication, disons, naturaliste, ténienne, effet de milieu. Mais cette explication naturaliste ne suffit pas. À la différence d'autres objets comme les meubles, les ustensiles, les vêtements, la vaisselle, les voitures de maître, les objets iconiques ne sont pas des signes translucides, univoques, épuisant leur valeur dans l'indexation d'un niveau de vie. Leur nature d'icône, en effet, les rend opaques, en quelque sorte. ce qu'il donne à voir dans la matière, dans le contenu et dans la forme, est à considérer en plus de ce à quoi ils servent. Et l'insistance de Zola à les montrer, à en parsemer ces décors romanesques, pose problème, je crois, appelle une attention particulière. Nous venons de constater que certaines toiles du Louvre, associées les unes aux autres, forment ensemble une métaphore des personnages et de leur situation. Mais plus qu'une métaphore, ces toiles forment un présage symbolique de leur destin à venir, un présage symbolique de la simple vie de Gervaise Macquart, hein, comme dit Zola lorsqu'il songe à un premier titre de ce qui sera l'Assommoir. Alors l'icône, à ce moment-là, n'est plus seulement un signe de milieu, fonctionnant selon le code ténien, positiviste, mais un signe de destin, une figure emblématique, justement. C'est bien vrai dans la curée aussi, des amours de Chaplin, des photos de courtisanes ou du costume de la nymphe Écho. Autant d'images qui, avec d'autres, expliquent au lecteur avisé de quelle fatalité est marquée René, la Phèdre moderne. Fatalité de l'amour, fatalité de la faute, fatalité du désespoir, fatalité de la mort. Le musée se fait donc ici langage oblique. Or, troisième étape dans l'analyse, c'est un langage oblique qui parle non pas seulement au lecteur, mais aussi au personnage. Les peintures, les photographies et les tableaux vivants de la curée, vous le savez bien, on l'a dit plutôt déjà ce matin, renvoient à René la même image que son miroir. La même image aussi que la prostituée qui navigue sur le boulevard, sous les fenêtres du café riche le soir où la jeune femme se livre à son beau-fils. L'image d'un double, donc, à la fois soi-même et un autre qui vous épouvante en vous livrant votre vérité. Et ça, c'est peut-être une troisième fonction de l'image de musée dans le roman de Zola, sa fonction qu'on pourrait dire de spécularité, hein, à la fois surplus de sens pour le personnage comme pour le lecteur, quoique sur deux plans différents pour chacun d'eux, dédoublement, réflexivité du réseau des significations et de leur expression. Mais s'y ajoute tout aussitôt un effet diégétique, car chez Zola, la vision du double ou de l'autre terrifie le personnage, paralyse le personnage ou peut le conduire à des actes dramatiques, à la folie, au meurtre ou au suicide. De sorte que le musée se fait névrotique, ou en tout cas source de névrose, et c'est à ce moment-là que le roman vire ou au fantastique ou au merveilleux. Dans Thérèse Raquin, vous le savez bien, le portrait de Camille introduit entre Thérèse et Laurent, dans la chambre des deux amants, introduit l'image inhibitrice d'un mort-vivant, l'incarnation obsessionnelle du remords, l'annonce d'un châtiment qui sera un châtiment mortel. Ça, c'est le côté fantastique. Pour le côté merveilleux, on peut penser au rêve. Dans le rêve, hein, à l'inverse, la contemplation par Angélique du vitrail qui représente Saint-Georges entraîne la jeune fille à confondre le visage du saint de vitrail et celui de Félicien, l'artiste qui le restaure. Et de là, à confondre, dans l'amour qu'elle va porter à Félicien, la réalité du désir et le merveilleux de la foi. Mais ceci, continuons, ceci n'est pas sans incidence sur la facture et l'esthétique du roman. Car il arrive que dans la logique même de ce que j'indique à l'instant, il arrive que la suite d'une intrigue soit ainsi programmée par le thème d'une icône. L'intrigue, en somme, s'y auto-représente. L'intrigue prend la relève du titre, qui est l'instrument primordial, premier, de la lisibilité et de la crédibilité du récit, et elle contribue à refermer le récit sur lui-même par une espèce de fonction modélisante de l'image, dans un jeu de renvoi mutuel qui n'affecte pas seulement les personnages de la fiction narrative et ceux du décor iconique, mais la régie du texte, qui n'affecte pas seulement les contenus concrets, mais la conduite, le pilotage des structures du récit. Zola affectionne, me semble-t-il, ces interfaces. On pourrait parler d'interface en employant un terme un petit peu technico-moderne. Ces procédés de décrochement et d'enchâssement interne, ces passages du verbe à l'image et du récit à son reflet, à son substitut intranarratif apparaissant selon un autre code de communication. Et je ne suis pas sûr qu'on trouve ces subtilités à pareil degré chez ses devanciers et chez ses contemporains. Ce sont des traits de composition et d'écriture qui font penser plutôt aux recherches du roman moderne ou même postmoderne qu'au discours naturaliste. Ce n'est pas seulement chez l'auteur des romans Macquart, complaisance ou fascination technique, c'est avant tout la conviction que le roman, loin de se fier au hasard et à la liberté de ses motifs, exige pour accéder à la dignité de l'art la recherche de formes et de rapports définis. Alors, dans cette perspective, on peut aller peut-être encore un peu plus loin et se demander si le tableau, ou plus généralement le motif iconographique, espace clos dans un espace plus vaste qui l'englobe, espace délimité par nature et formellement réglé, ne sert pas à l'intérieur du texte de modèle pour l'ensemble des espaces représentés. Et aussi bien pour les espaces de représentation, les espaces concrets de représentation, et pour l'espace propre du livre comme objet d'impression, de maquette, de mise en page, de structure typographique dans le jeu des parties, des chapitres et des séquences. En effet, le tableau, la photographie, la gravure classique obéissent à la règle de l'encadrement ou du cadrage qui sépare le sujet de l'espace englobé de l'espace englobant qui délimite un arrangement composé d'éclairages, de lignes, de couleurs et qui concentre sur lui l'attention investigatrice du spectateur. Et on voit bien que Zola, peut-être en raison de son intimité de jeunesse avec les peintres et de ses activités de critique d'art, étend ce traitement de l'espace qui est celui du peintre, ou du photographe ou du graveur aux situations narratives qu'il met lui-même en scène. Le cadrage scénique, l'intuition prémonitrice du plan cinématographique relaie sans doute dans ses techniques de composition le cadrage pictural, mais en tout cas, on y dénote aisément les procédés et les instruments de la picturalisation. Procédés et instruments qui inscrivent à tout moment dans le texte du roman des simulacres de tableaux et qui étendent ainsi à l'infini le musée textuel, ce qu'on pourrait appeler le musée textuel. Le portrait de René, revenons encore à la curée, s'encadre dans son miroir, vous en souvenez, ou dans la glace du couturier Wart, chez qui elle va faire ses seillages de robe. Le paysage de la Seine, dans le même roman, vu d'une fenêtre de l'hôtel Béraud, est explicitement comparé par Zola à une peinture hollandaise. L'ombre nocturne des deux extrémités du boulevard des Italiens, toujours dans la curée, entoure le mouvement violemment éclairé du trottoir et de la rue, saisi en plongée. Déjà la fameuse plongée sur laquelle on s'arrêtait tout à l'heure, hein, saisie en plongée par le regard de René. Évoquons que pour mémoire, les espaces clos du dîner de l'hôtel Saccard, ou les tableaux vivants, ou le cotillon détaché en configuration, en figures successives. L'extension du cadrage et la profondeur du champ varient, dans le roman comme dans la peinture. L'image de Thérèse Raquin dans le fond du magasin, vous vous souvenez, dans les toutes premières lignes du roman, l'image de Thérèse Raquin, lui-même cernée dans la vitrine, n'est pas située sur le même plan ou à l'intérieur du même champ que l'image de René dans sa glace. Et à bien chercher, on trouverait sûrement dans les Rougon-Macquart, comme chez Degas ou comme chez Caillebotte, dont on nous parlait il y a quelques heures, de ces effets de décentrage, de focalisation insérée dans l'espace présupposé du tableau, ou même de hors-cadre. Encore un inventaire à proposer aux chercheurs. De sorte que Zola travaille comme un peintre de la nouvelle école, il travaille ses entours, ses fonds, ses décors, ses premiers plans, ses arrière-plans, ses rapports de lignes et de tons. Est-ce qu'on pourrait parler à son propos de composition et d'écriture iconique ou iconographique ? Précisons immédiatement, comme je l'avais fait ailleurs à propos de l'œuvre, que s'il pratique volontiers l'arrêt sur image, tout se remet très vite en mouvement. C'était l'objet d'un élément de discussion ce matin, car le romancier, comme le cinéaste, dispose du temps et du mouvement. Pour lui, la tâche est double, et Zola y excelle, attraper l'instant comme le peintre et saisir le changement dans la durée comme le fera le film, de sorte qu'on pourrait dire que le musée des Rougon-Macquart, c'est aussi une cinémathèque. Enfin, modèle pour les espaces énoncés, l'icône l'est peut-être en second lieu pour l'espace énonçant, c'est-à-dire pour l'objet livre. pour ses bordures et sa clôture, pour la séparation du texte et du hors-texte, pour son économie et sa mathématique interne, pour ses lignes de fuite et ses points de convergence. On explique parfois le caractère obsessionnel des proportions numériques dans les Rougon-Macquart, les 13 chapitres de l'Assommoir, chiffre fatidique, les 7 parties de Germinal, les 5 fois 5 chapitres d'une page d'amour ou de tel des 4 évangiles. On explique cela parfois par son arithmomanie et sa crainte superstitieuse des chiffres maléfiques. Mais les symétries, les parallélismes, les correspondances, les rythmes du livre comme espace-objet nous renvoient encore au chef-d'œuvre des musées et à l'art des grands peintres ou des grands photographes. Et si la Curie et Germinal commencent et s'achèvent par une même scène inversée, est-ce que ça n'est pas pour cadrer l'espace du texte, le détacher et l'enlever sur le fond du discours quotidien comme un objet bien tourné? Il y a là une préoccupation commune aux romanciers, aux peintres et aussi à l'architecte, la recherche du nombre d'or qui fonde l'harmonie et le rythme. Encore une fois, et pour terminer maintenant bien vite, remarquons que le roman expérimental, la grande œuvre théorique de Zola, reste muet, totalement censurant, totalement occultant sur ses pratiques et ses recherches. C'est pourquoi il faut se méfier comme du diable des termes qu'on trouve dans les manuels scolaires, en isme, etc. Zola aurait pu les expliquer, ses pratiques, et les justifier à partir de l'idée d'expérimentation. C'est bien pour l'époque une expérience que de mettre ainsi le roman en abîme, sujet et forme mêlées, dans ses propres représentations iconiques. Beaucoup plus tard, le nouveau roman le tentera plus explicitement et plus délibérément. Mais Zola, vous le savez bien, prenait le mot expérimentation dans un autre sens qui l'empêchait de théoriser véritablement ses intuitions d'artiste sur la structure. Heureusement, en un sens. Heureusement parce que le naturalisme, comme discours esthétique, en aurait probablement souffert jusqu'à imploser, littéralement, dans la découverte sans doute douloureuse de son propre paradoxe. Je reviens en effet pour finir à l'effet de miroir. Dédoubler le sujet dans son reflet. La fête d'anniversaire de Gervaise dans la kermesse de Rubens. Camille Raquin mort dans son portrait survivant. L'image de René dans celle de l'actrice jouant Phèdre. Ou même iconiser le roman, immobiliser les instantanés d'une existence dans des artefacts de tableaux hollandais ou impressionnistes. Est-ce que ça ne revient pas à suggérer que tout est représentation, que tout est mise en scène, que tout est illusion? Dans le rêve, après tout, qui est le vrai Félicien aux yeux d'Angélique? Et ce sont les seuls qui comptent. Est-ce que c'est le saint du vitrail ou est-ce que c'est l'artiste sur son échelle? Le lecteur, à qui le romancier naturaliste a pourtant promis le savoir et la vérité, reste sur cette interrogation, sur cette incertitude déceptive, mais sûrement générative de plaisir. Et si c'est le double, factice et illusoire par nature, qui tient le langage de la vérité, comme c'est souvent le cas, cette duplication du motif romanesque n'institue-t-elle pas, au sein du contranaturaliste, une sorte de jeu contre-naturaliste qui brouille les tranquilles certitudes de l'observateur et de l'expérimentateur, au sens que Zola donnait à ces mots dans le roman expérimental? Pour avoir substitué au modèle que lui offrait la vie un double hallucinatoire dans lequel il cherchait désespérément la vérité de la femme, Claude Lantier, vous vous en souvenez, s'est pendu devant sa toile. Dieu merci, le peintre n'était là encore qu'un double du romancier qui, lui, a su rester de ce côté-ci du miroir, vivant ses vérités successives, mais avec toujours en face de lui, sur la toile de Manet, cet autre lui-même qui n'osait pas le regarder, mais qui continuait à l'interroger et à s'interroger par sa présence muette et déjà immortelle. Merci de votre attention.
Merci Henri. Comme très souvent, tu nous as montré comment on fait pour boucler la boucle, et comment sortir de la co-occurrence Zola et le le romancier et le peintre, le romancier et le photographe, le romancier et l'image, comment sortir de là pour les laisser, pour les faire coexister, en cherchant à sortir ce romancier qui est en même temps le faiseur et le montreur d'images, et comment on pourrait faire pour analyser ça de plus près. Merci beaucoup. À vous de poser des questions à Henri Mitran. Oui, s'il vous plaît.
Le réalisme que voulait Zola. Alors, je pense que cet illusionnisme, d'abord, quelqu'un d'autre en parlait à peu près à l'époque de Zola, dans un discours théorique, c'était Maupassant, dans sa préface de Pierre et Jean. Alors, je me demande, je pense à, par exemple, les actes du colloque qui s'est tenu à Cambridge, dans une des dernières communications. Je ne me rappelle plus malheureusement son auteur.
Merci. S'il est difficile de parler après Henri Mitran, c'est aussi un peu irrépressible tellement ça déclenche, tellement le fait de l'écouter déclenche de choses. Alors rapidement, moi en particulier, au bout d'un moment, j'ai eu envie de mettre en relation ce que vous disiez sur l'espace romanesque et les discussions qui ont précédé à propos des communications précédentes sur le Zola photographe est-il ou non le même Zola que le Zola écrivain. Pour moi, il me semble qu'il y a une espèce de déclic qui s'est produit, en particulier quand j'ai vu arriver la référence à Pierce, qui m'a immédiatement renvoyé à la relecture que fait Philippe Dubois dans l'ouvrage que vous connaissez bien, donc l'acte photographique, puisqu'il vient d'être réédité chez Nathan. Et je me disais ceci, avec en plus le souci d'une espèce, peut-être encore plus de chronologie, d'une espèce de taxinomie esthétique des photos de Zola, enfin bon. Je me disais ceci, c'est qu'on pourrait peut-être revoir les photos de Zola en essayant d'y distinguer deux grandes tendances, l'une beaucoup plus vers l'icône, l'autre plus vers l'index, à la fois en termes de temporalité, de spatialité et je crois de signification, de processus signifiant, hein, de production de sens. Il me semble à ce moment-là que les portraits fait dans la sphère intime et me semble-t-il plus dans une temporalité du moment d'intimité aussi beaucoup plus que de l'instantané, hein, ce qui recoupe d'ailleurs des notions techniques de photographie, je suis aussi photographe, bon. Donc que ces portraits avec leur temporalité, leur spatialité intime tendent beaucoup plus vers la production de l'icône et peut-être au-delà d'ailleurs du symbole, mais enfin au sens pircien toujours. Et que par contre, la pratique de Zola reporter, les photos d'extérieur, de l'exposition, etc., sont beaucoup plus dans ce que Philippe Dubois, donc en particulier, décrit comme la logique de l'index, mais là, je dirais presque le vertige de l'index, pour le coup, de l'indice, avec ce rapport beaucoup plus direct à l'être là du monde qui est devant l'objectif et dont on fait un avoir été là, ce qui devient bartésien à ce moment-là. Bon, Et alors, ce qui me renvoyait, donc, pour finir complètement, à ce que vous disiez des espaces clos à l'intérieur d'un plus vaste espace romanesque, je me disais qu'à ce moment-là, en termes photographiques, d'histoire de la photographie, les photos de reportage de Zola fonctionnent un peu comme des... Massin l'a fait avec des recadrages rapides, comme des petits adjets ou des petits stiglitz enchâssés dans des espaces qui sont finalement un peu ceux de la carte postale de l'époque, hein, mais avec cette dialectique donc de ce petit espace, d'un petit adjet enchâssé dans un espace plus grand et plus solennel de la carte postale. Ce qui me renvoyait pour finir aussi à ce que dit Michel Serres à propos essentiellement du docteur Pascal, mais de l'ensemble qui exhibe un sous-ensemble, qui produit une loi qui reproduit l'ensemble. Et pour le coup, là, ça me semblait fonctionner très très bien parce que là, moi, j'avais ma propre réponse. Oui, le Zola photographe, photographe reporter, c'est bien le Zola romancier avec ces mêmes relations entre des espaces petits et grands. Mais je m'arrête parce que ça devient très très long. Merci de m'avoir écouté.
Merci.
Madame, s'il vous plaît. Oui.
Vous avez prononcé le mot de devancier et je voudrais le reprendre, mais pas du tout pour signaler des influences, parce que d'abord je me méfie beaucoup et du mot et de la chose. Mais il me semble que le volume sonore, mais j'entends volume d'écho de tous ordres, que vous avez déroulé dans votre très belle lecture, ce volumen, je crois que vous auriez pu le dérouler pour tel ou tel roman de Balzac. Et je pense non point nécessairement pour les romans parmi les plus connus, mais La fille aux yeux d'or, La fausse maîtresse, et en particulier La duchesse de Langeais. Est-ce que vous ne pensez pas, alors c'est ma question, que la musique joue comme accompagnatrice et comme prophète dans La duchesse de Langeais le rôle que vous avez précisément assigné à l'icône dans votre démonstration?
Oui, pourquoi pas. C'est probablement d'ailleurs une tendance assez, assez naturelle du roman que de s'afficher soi-même dans des structures empruntées à d'autres langages qui disent dans ce langage même ce que dit le roman par le verbe. On pourrait certainement trouver quantité d'exemples de traductions. Traductions internes. D'ailleurs, le romancier se fait traducteur et transpositeur de son propre univers de représentation à l'intérieur même de cette représentation, en passant par le moyen d'autres langages comme la musique ou la peinture. Mais ce qui m'intéressait, moi, chez Zola, c'était, disons, la technicité plus grande chez lui de ce type d'exercice. Et d'autre part, le rapport que cet exercice entretient avec la conduite on n'ose plus prononcer le mot de structure de nos jours, avec la conduite de la structure narrative. Ce qui fait que chez lui, vraiment, c'est un système qui se referme, qui se clôt sur lui-même. Je ne sais pas par quelle métaphore expliquer ça, toile inscrite au cœur de la représentation dans tel des romans devient une espèce de noyau et de modèle pour le fonctionnement entier de la machine ou du jeu romanesque. Ça resterait à regarder dans le détail. Mais c'est une pensée qui me paraît beaucoup plus consciente et concertée chez Zola que plus chez Balzac, où c'est emporté par le flot. C'est moins techniciste, je dirais. Zola est beaucoup plus, est un romancier beaucoup plus formaliste que Balzac. Il s'inscrit dans cette tradition.
Donc là-dessus, il a réfléchi alors.
Il n'en dit rien. Il y a le silence radio complet de Zola sur ce genre de phénomène. Oui. Alors, a-t-il réfléchi ou est-ce que c'est tout simplement le fait d'une expérience infuse et intuitive? C'est très difficile de répondre à cette question. On ne peut que constater le résultat sans bien savoir quelle est sa genèse intérieure.
Merci.
Il n'en parle pas parce qu'il en aurait honte. Il aurait honte de se montrer comme un joueur, comme un amateur de correspondance formelle. Il veut être un savant. Je suis un savant, je ne suis pas un amuseur. Donc, pas question d'imaginer...
Balzac non plus.
Oui, mais Balzac n'a pas fait... mais Balzac n'a pas fait de théorie du roman expérimental.
Voilà.
Merci. Oui. Puisqu'on parle de répétition, de reflet, j'aimerais revenir à la question du baroque. Et je vous rappelle une remarque que vous avez faite précisément au colloque de Cambridge. Là, vous avez dit qu'il serait peut-être plus exact de parler d'une sorte de bas-baroque, hein, dans le cas de Nana, par exemple.
De bas-baroque?
Oui, c'est-à-dire, ou de baroque, disons, inférieur, parodique. Hein? Oui.
Oui. Oui, peut-être. Alors, oui.
Peut-être vous n'avez pas employé les mêmes mots. Hein?
Alors, le baroque dégradé, vous voulez
ça,
dire?
Oui, ouais. C'est ça, oui, c'est ça. Alors... Est-ce que il est peut-être significatif que dans les exemples que vous avez donnés, la prolifération de reflets et de répétitions a lieu dans un contexte parodique, c'est-à-dire les éléments baroques sont moins, si vous voulez, une sorte d'esthétisation. Il s'agit plutôt d'une sorte de critique, de dégradation. Dans le processus même de la répétition et du reflet.
Oui, parodique me gêne un petit peu parce que ça nous oriente tout de suite vers l'ordre du burlesque, du comique, du rigolo, etc. Alors que aussi bien dans Thérèse Raquin que dans La Curée, les effets de double sont des effets qui renvoient à la tragédie des personnages, hein, qui n'incitent pas au sourire, me semble-t-il. Alors qu'il y ait des effets parodiques dans Nana, par exemple, sûrement. Mais enfin, il faudrait voir le détail. Hein. Mais je ne généraliserai pas trop l'emploi du mot parodie à ce propos, me semble-t-il. Hein. Je ne sais pas, enfin, faut voir.
À propos du roman Icône de lui-même et de la question que vous a posée tout à l'heure cette dame, à ma connaissance, enfin j'ai eu le souvenir immédiat et aussi après la très bonne communication de monsieur Jean-Pierre Leducadine à propos de la bête humaine, justement d'un commentaire de Zola lui-même, je crois que c'est dans sa correspondance, où il dit qu'il aimerait que le roman de la bête humaine fût lui-même comme une immense ligne. Donc il y a cette préoccupation de la part de Zola explicite, au moins une fois.
Hein. Absolument, vous avez parfaitement raison, c'est un des rares cas où le discours de Zola, comment dire, éclaire de manière directe ses préoccupations et ses techniques d'artiste du roman. Il explique, mais d'ailleurs très longtemps avant d'avoir pensé à écrire La Bête humaine, c'est simplement à l'état de projet, 10 ans avant, il explique à Paul Alexis, je crois, qu'il rêve d'écrire un roman dont les extrémités, hein, ou qui serait conçu de telle manière que la forme même du roman reproduise les extrémités de la ligne ferroviaire. Et ça, c'est un texte absolument rarissime et tout à fait éclairant. Merci d'avoir apporté ça à la discussion.
Et je voudrais ajouter aussi, excusez-moi, un autre commentaire à ce que vous avez dit. Je pense que par rapport à Balzac, et cet exemple, en fait, cette citation que j'ai mal faite, mais enfin que j'ai voulu faire, le montre, il y a ce souci constant de l'économie des moyens. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de reste, qu'il n'y ait pas de superflu, qu'il y ait une cohérence et une cohésion parfaite, ouais, du roman. Et j'ai l'impression que dans ce motif qui, ouais, apparaît dans le roman, ouais, qui est ce motif iconique, fonctionne comme une espèce de cellule génétique, ouais, de, ouais, tout le, ouais, roman, ouais, qui va, ouais, le dérouler, ouais, tout entier et qui va en quelque sorte être une espèce de roman endogénétique parfait. Ouais. Où il ne va pas y avoir de superflu, il ne va pas y avoir justement, il va y avoir une saturation complète de ce motif qui va être achevé, accompli, réalisé d'une certaine manière par le roman lui-même.
Merci.
Bon, l'heure avance et je propose, si vous en êtes bien d'accord, qu'on regroupe les 3 dernières questions. Alors, j'ai vu des... Oui, c'était 1, Pedro 2 et Charles Grivel 3. J'oublie. Bon, allons-y.
Bon,
à propos du musée chez Zola, il me semble qu'il y manque une dimension. C'est-à-dire que le musée chez Zola me semble un bric-à-brac, avant tout, à la Prévert. Il y manque un raton laveur, pratiquement, d'après ce que vous avez énuméré dans la curée. Ou alors, les objets de musée sont des objets d'expérimentation, un peu comme dans le nouveau roman. Mais il me semble qu'il y manque une dimension de contemplation, d'amour de l'art, au fond, de jouissance, un peu comme le petit pan de mur jaune de Proust. C'est-à-dire qu'on ne voit pas de collectionneur, me semble-t-il, Enfin, il y a une vision négative de l'art, à la limite, me semble-t-il.
De la part de Zola.
De la part de Zola, ah. Oui.
Il ne s'attarde pas, c'est vrai, il ne s'attarde pas. Bon, il faut d'autre part ajouter que ce qui nous apparaît aujourd'hui comme objet de musée, à l'époque, n'est pas objet de musée, ce sont des objets de la vie quotidienne. Hein. La lecture que nous avons en 1990 n'est pas celle probablement que faisaient les lecteurs de 1870, pour qui toutes ces représentations faisaient partie de l'évidence et non pas du musée. Mais à distance, un siècle plus tard, effectivement, on entre dans le musée des traditions, des arts et traditions populaires. Mais moi, je souhaiterais qu'un jour, on fasse justement un index, un inventaire complet de ce que vous appelez, et que j'ai appelé aussi moi-même, ce bric-à-brac. Ce sont autant de signes qui, dans la sémiotique de l'univers de Hugo Macquart, ont un rendement considérable. Probablement plus aujourd'hui, du reste, de nos jours, qu'il y a un siècle. L'ethnographie est toujours, par la force des choses, historique. L'ethnographe ne relève que ce qui est étranger à son propre univers de culture. C'est un peu notre tâche.
Faites donc alliance rapidement.
Rapidement, je vais essayer. Je voudrais d'abord dire ma grande joie d'avoir entendu le patron, dans le sens amical, hein. Montrer le côté non-zolien Zola. Et parce que c'est un aspect que j'ai toujours défendu dans le séminaire, vous m'avez souvent entendu dire que Zola n'était pas Zola. Récemment, à propos aussi de l'Assommoir et du musée de l'Assommoir, j'ai intitulé une communication « L'Assommoir, les théories assommantes », justement pour montrer tout ce qui avait pas de naturaliste, et je m'appuyais beaucoup sur le musée. Et Zola, effectivement, a utilisé beaucoup cette technique de mise en abîme, d'intertextualité. Très tôt, vous avez parlé de Portrait de Thérèse Raquin, j'ai souvent parlé aussi de Madeleine Ferrat, où il y a les deux aspects, la photo qui joue un rôle déclencheur du drame, et d'autre part, la série de gravures du drame de Pyramidisme, etc. Par rapport au problème essentiel, c'est surtout là que je voulais dire, en revenant sur ce qu'avait été dit sur Balzac, la raison qu'à mon avis explique que Zola n'en parle pas dans le roman expérimental est la suivante. Il voulait se démarquer de Balzac. Or, Balzac utilisait cela aussi. Et donc, la seule chose qui pourrait le différencier, c'était la théorie, c'était l'hérédité, enfin tout ce qu'il en a fait. Donc, c'est ça qu'il a fait. S'il aurait insisté sur le phénomène de mise en abîme, etc., il se montrerait l'identique de l'autre. Mais par rapport à Balzac, ça serait encore moins grave, parce que bon, c'est un écrivain naturaliste. Or, cela est très courant. Et il faut se garder de présenter Zola dans ce domaine-là comme un devancier. Il faut effectivement le rapprocher des autres, mais cela était très courant. Par exemple, des exemples rapides. L'Origine noire de Stendhal, tous les chapitres ont un petit chapeau, une sorte d'air. Où la mise en abîme, ce qui est dit, est là. Et ça structure aussi le roman. Un autre exemple encore. Stendhal serait encore aussi proche de Balzac, pas très grave. Par exemple, Gautier. Gautier, le capitaine fracasse. Gautier, mademoiselle Maupin, il fait la même chose avec le théâtre, notamment Shakespeare, tant qu'il vous plaira, etc. Et cela, bon, a été fait par Diderot, par d'autres, Stern, etc. Rob Grier, récemment, il y a quelque temps, je l'ai entendu dire de lui-même, de sa propre bouche, que finalement, ils n'avaient rien inventé et que ce qu'ils faisaient naïvement sans le savoir avait été fait au 18e siècle, Pasteur, mais bien d'autres.
Bien, ultime question. Alors, Charles Grivel renonce, donc c'est pour vous.
Alors, je renonçais pour le silence.
Bon, alors c'était Charles Grivel. Excuse-moi.
Je voulais simplement poser une question. Les autres inventeurs des sables de l'art, nous avons parlé de fait, ils sont nommés. Et évidemment, toute une lecture de Zola qui se en dehors du texte même de Zola, c'est-à-dire les objets qu'il ne peut pas nommer. Et ces salons, je crois, en sont un signe. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne peut pas discuter vraiment les œuvres qu'il voit. Et pourtant, il s'est documenté jusqu'à la pointe du progrès pour l'œuvre, par exemple. Mmh. Mais les œuvres dont il parle sont des œuvres non visibles dans le texte, qui sont, disons, à l'état de concept. Seulement, et qui se projette pour moi vraiment comme lecteur dans l'avenir. Quand je lis l'œuvre de Zola, je vois
des œuvres qui ne sont pas dans le musée de l'époque de Zola, mais qui sont dans nos musées aujourd'hui. Et je ferai plutôt un rapport ici avec Proust, qui a, à mon avis, les mêmes problèmes. Il y a des points reconnaissables chez Proust, mais jamais, jamais l'œuvre esthétique ni le bazar n'est vraiment reconnaissable en tant que tel. Et je crois que c'est une condition, de toute façon, de tout discours littéraire sur l'art, qu'il ne peut pas nommer ni donner à voir directement.
Alors, Charles Grivel.
Oui,
j'insiste. Bien sûr.
Et ça s'articule tout à fait à ce que mon collègue juste précédemment a... Moi aussi, je ne vois pas, sous toutes les belles choses que vous nous avez dites, M. Mitterrand, il me semble que le mot du musée est un petit peu, enfin peut-être un peu trompeur, puisque, en effet, un, les toiles ne sont pas des toiles, hein, ce sont des toiles d'un musée futur, et on pourrait ajouter comme argument aussi, c'est que les toiles les plus intéressantes sont des toiles en train de se faire, qui ne se font pas, et qui sont malheureuses, et qui conduisent soit à un coup de poing dedans, soit, comme vous l'avez bien invoqué, au meurtre, en tous les cas, jamais à la contemplation esthético-machin, vous voyez. Alors, oui, musée, mais un musée pas encore là, quand même. C'est nous qui le faisons, le musée. Mmh. Art de l'illusion, comme vous dites. N'est-ce pas ?
Un conservatoire.
Ouais.
Bon, eh bien, je remercie très vivement tous les intervenants, mais je voudrais garder la parole encore quelques secondes pour témoigner à Jean-Pierre Leducadine, ainsi qu'à sa fidèle collaboratrice, la secrétaire générale de l'équipe Zola, Danielle Cousseau, notre reconnaissance et nos félicitations pour la manière dont ils ont organisé ce colloque. Le colloque n'est pas tout à fait terminé, puisque demain matin, il s'achèvera en fait par une table ronde au musée Zola à Médan. Mais enfin, d'une certaine manière, il y a une première phase qui s'achève ce soir. Et je pense que c'est le moment de dire bravo et merci à l'équipe qui a eu toute la charge écrasante de cette réunion. Il méritait bien ça. Cinéma.
Cinéma maintenant. Je crois que nous pouvons commencer, à moins que quelques-uns veuillent
que prendre 5 minutes.
Alors, Projection de la Terre, un film qui n'a pas été vu depuis 1930. Le film dure environ 1h15. Maintenant, tout de suite.
Ici.
Simplement, auparavant. Je voudrais annoncer que Auguste Dezalet devrait nous faire une toute petite communication à propos de la prochaine réunion de la bande zolienne en 1993.
Pour retenir longtemps, je profite de la présence de toute une série d'équipes Zola d'Angleterre, du Canada, d'Italie, etc., pour faire une première annonce tout à fait préliminaire d'un colloque Zola qui aurait lieu à Strasbourg pour célébrer le centenaire de la fin des Rougon-Macquart et qui se passerait vraisemblablement en octobre 93. Et probablement aussi, il y aura des précisions plus tard, sur le thème de Zola et l'Europe, naturellement. Voilà.
Merci.
Bonne idée. Merci, Henri, mais voyez-vous, allez-vous respecter votre modestie, vous ne l'avez pas fait pour...
Écoutez, ça aurait été bien, un petit chapeau quand même. C'est vraiment qui a aimé.
Non, mais avec, non, il faut dire que le thème est Nadine et Almoud a été vraiment...
Bien sûr, c'est la structure derrière.
Il nous a beaucoup aimé. Non, c'est pas excellent. Oui, c'est pas excellent. Oui, bien sûr. Mais c'est quand même... C'est, non, ça s'est fait aussi sauf à la fin.
Oui, à peu près.